Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde « Rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données » organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Leçon 4. J'ai compris quel était le rôle d'un patron. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert comment Christelle est arrivée au sein de la filiale française de Bebrun, occupant d'abord le poste de directrice juridique, avant de gravir les échelons pour devenir directrice des opérations, puis directrice générale d'une des branches de l'entreprise. Son parcours exceptionnel l'a menée à être désignée, en mars 2020, présidente de Bebrun France.
Les premiers jours en tant que présidente, alors c'est particulier en mars 2020 quand même, hein. Faut dire que bloquée à la maison, c'est un peu particulier. Je me rappelle du premier COMEX, j'étais donc la présidente, la nouvelle présidente, où je passe soudainement du statut de collègue à patronne. Ça a été, je pense, quelque chose que mes collègues ont dû accepter. C'était pas forcément évident, je me mets à leur place. Franchement, c'est pas facile de se retrouver du jour au lendemain à devoir être gérée par la personne qui, la veille encore, était au même niveau. Donc, il a fallu que... Et en plus, j'avais une réputation... En tant que directeur juridique, on a forcément un positionnement qui est un peu le gardien du temple, un peu dur sur le respect des règles et sur un certain nombre de choses. Donc, il a fallu que je change un petit peu mon style. Bon, c'était très naturel hein, chez moi, mais de changer mon style de communication. Et j'ai appris petit à petit. On ne peut pas avoir le même positionnement. Donc, c'est quelque chose qui a été assez... assez rapide, même si tout n'était pas parfait dès le départ. Et la première chose qui s'est passée de marquant, surtout, c'était à l'issue du confinement. On a eu notre plus grand site de production, donc à Nogent-le-Rotrou, qui avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Et les salariés ont décidé de faire grève, vraiment en sortie de confinement. Donc il y avait des tas de choses qui les avaient eu peur parce qu'on leur avait demandé de continuer à travailler malgré le Covid. Au début, je rappelle, tout le monde a oublié, mais il n'y avait pas de masque. Il a fallu mettre en place une organisation où on évitait de se croiser. Ils avaient peur vraiment pour leur vie, hein. C'était vraiment compliqué. Mais ils étaient là quand même, ils étaient au rendez-vous parce que c'est des produits de santé. Donc si on arrête de produire, nous, il n'y a plus de produits dans les hôpitaux. Donc ils continuaient. Et pour un certain nombre de raisons que je ne développerai pas ici, ils ont pris la décision de manifester un certain mal-être et de faire grève. Donc c'était vraiment, au mois de mai 2020. Et donc là, la question s'est posée de comment gérer ça en tant que nouvelle présidente. Et j'ai un peu échangé avec la DRH, avec mes collègues, comment il fallait faire. Et finalement, j'ai pris la décision de dire, vous savez quoi, je vais y aller toute seule en voiture et puis je vais discuter avec eux. Donc, j'ai pris ma voiture, 1h30 hein, pour nos gens. Je suis arrivée et puis là, j'ai été au contact. Et ça, c'est un moment très formateur et c'est un moment clé parce qu'on ne peut pas se rater. Et dans ces cas-là, il faut aussi comprendre, avoir de l'empathie, comprendre pourquoi les gens se retrouvent à faire grève. Ce n'est pas forcément contre l'employeur. C'est pour s'exprimer, c'est pour exprimer des choses. Et il faut les écouter. Et c'est là où j'ai appris qu'il fallait écouter, en fait. Il faut écouter les gens, essayer de les comprendre et ne pas être dans le jugement. Et finalement, c'est là que j'ai compris aussi quel était le rôle d'un patron au sein d'une entreprise. C'est le rôle d'un patron, c'est de communiquer, et d'être à l'écoute des gens, de donner de l'information, mais aussi recevoir de l'information, tout le temps. Notre métier premier, c'est la communication. Et c'est comme ça qu'on dénoue les conflits, c'est comme ça qu'on oriente une entreprise. Et c'était très formateur. C'était assez impressionnant. J'avoue que j'en menais pas large. Alors, pour tout dire, assez rapidement, je me suis fait accompagner par un coach pour apprendre à communiquer. Donc, la posture, poser sa voix, poser les mains, parce que tout passe par une communication visuelle et aussi le son. Plus que par... C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est pas le cas à la radio, mais quand il y a l'image et le son, les gens retiennent 70% de l'image et 30% de ce qui est dit. Donc j'ai appris un certain nombre de choses. Et ça m'a permis de commencer à répondre à certaines sollicitations. Il y a eu des plateaux télé, donc ça c'est la première télé, c'est quand même impressionnant. Hein. Vous arrivez, vous êtes face à un journaliste que vous connaissez, que vous avez vu par ailleurs, et qui vous pose des questions, bon, c'est un peu impressionnant. Donc là, il a fallu que je gère ça. Mais également, je me suis rendu compte que je me suis aperçue en fait, petit à petit à quel point notre société était un acteur important dans l'environnement du DM en France. On est quand même le troisième employeur des dispositifs médicaux, des technologies médicales en France. On est le premier employeur européen. Si on compte toutes les usines, les centres de dialyse, la distribution, on est quand même gros. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne à communiquer aussi avec les décideurs politiques. Donc on se retrouve, moi, petite jeune femme qui venait grandir, Weill-Malmaison, fille d'un ingénieur et d'une maman à la maison qui n'a pas suivi le parcours classique des patrons, je me retrouve invitée à l'Élysée, je me retrouve invitée à Versailles à accompagner ma patronne pour le sommet de Choose France. C'est des moments qui sont impressionnants, en fait, qui sont impressionnants et qu'il faut gérer en termes d'émotions. Il faut se positionner, il faut apprendre à parler, il faut montrer que, même si on ne l'est pas forcément tout de suite, mais il faut montrer qu'on est à l'aise. C'est des choses qui s'apprennent, voilà. Ça ne vient pas naturellement. Comment je me prépare dans ces moments? Alors, je me prépare en me focalisant sur... alors, ça peut paraître futile, mais sur la façon de s'habiller, parce que ça projette une image. Les vêtements sont un message. Les couleurs sont un message. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous me voyez habillée tout en bleu marine. Le bleu marine, c'est le sérieux, c'est le côté bon élève. Voilà, donc c'est un peu le... Puis ça rassure. Quand vous voulez vous habiller, quand vous voulez vous faire remarquer, vous mettez des couleurs un peu flashy. Donc je me suis retrouvée, comme je suis pas... Mon physique n'est pas très impressionnant. Quand je suis allée à Versailles pour Choose France, par exemple, je m'étais habillée avec une veste orange vive pour qu'on me voie. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Et ça me permet de me focaliser sur quelque chose qui peut paraître futile. Et ça me permet de ne pas trop me focaliser sur le reste qui pourrait me stresser. Et j'aime bien aussi faire des recherches. Donc, j'aime bien avoir des petites fiches sur qui je vais voir, leur parcours... Voilà, je me focalise là-dessus et évidemment, je me prépare finalement en continu. Je lis la presse tous les matins, la presse spécialisée, la presse généraliste, pour toujours savoir un petit peu ce qui se passe. Parce que finalement, dans ces moments-là, on vous demande souvent d'expliquer votre métier, d'expliquer vos activités, d'expliquer le dispositif médical, d'expliquer l'industrie. On est toujours dans l'explication, la rationalisation, l'éducation, finalement, quelque part. Et il faut pouvoir le faire et pouvoir recontextualiser en permanence. Donc, c'est comme ça que je me prépare.
Vous l'aurez compris au fil de ces quatre leçons que le parcours de Christelle est hors norme, atypique et extrêmement riche d'expériences et de rencontres. Ce podcast a révélé un thème récurrent parmi les leaders interrogés. Les trajectoires professionnelles ne suivent pas toujours une ligne droite. Elles sont ponctuées de succès, d'obstacles, mais surtout, elles sont jalonnées de précieux moments d'apprentissage. C'est dans cet esprit que Christelle tenait à partager un message encourageant avec tous ceux qui se reconnaissent dans ce chemin sinueux.
Alors, il y en a deux. Le premier message, c'est toujours aimer ce que l'on fait. Si un jour vous vous réveillez et que vous n'aimez plus votre métier, changez-en. C'est vraiment... Il ne faut même pas se poser de questions. Et ça peut être soit le métier, soit l'environnement dans lequel vous êtes. Ne restez pas dans un endroit toxique pour vous. Le deuxième message, c'est que les opportunités, on ne vous les donne pas. C'est vous qui les prenez, c'est vous qui les créez. Oui, il y a des gens qui m'ont donné ma chance, mais parce que j'étais là à vouloir cette chance. C'est que j'ai dû... pas me battre, mais j'ai dû convaincre. Et il faut oser. Et il faut toujours oser. Je l'ai déjà dit, mais la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on nous dise non, on n'en meurt pas. Voilà.
Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Medcheck Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.